mercredi 7 juin 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de Studio Kalungu au micro Nafissa Adam Sirfo. Au sommaire, les représentants des partis politiques, toutes tendances confondues de la région de Diffa, sont en renforcement de capacités sur les techniques de communication et les principes de base de la démocratie, une initiative du Conseil national du dialogue politique CNDP. Un forum sur la libération des champs de la commune de Wolam s'est tenu la semaine dernière dans la dite commune, une rencontre organisée par la Haute Autorité à la consolidation de la paix pour renforcer la coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs de la localité. Enfin, le magazine du jour s'intéressera à la situation sécuritaire de la région de Maradi, une région frontalière avec le Nigeria qui connaît des enlèvements des personnes et d'animaux par des individus armés. Dans le cadre de notre série sur le Hajj, cinquième pilier de l'islam, ce soir nous parlerons du pardon. Avant de partir pour le pèlerinage, il est recommandé à chaque fidèle musulman de demander pardon à son entourage. Mais quelle signification l'islam donne-t-il à la demande de pardon? Suivant les explications du prédicateur, Oustaz Mustapha Mahamadou, il est interrogé par Hawa Ousmane.
Nous sommes des humains. Allah a imposé sur nous de s'adresser de bonnes paroles, de se soucier des uns et des autres en disant au revoir à ta famille, à ta communauté, aux gens de ton quartier. C'est pour leur dire que je suis un humain et c'est pour eux que je meurs là-bas. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce qu'on appelle Hajj al-Wada, les pèlerinages d'au revoir. Et il a adressé au revoir aux gens parce qu'il ne sait même pas qu'il allait accomplir ce Hajj-là. Ça fait même partie des conditions de quelqu'un qui va à n'importe quel voyage, à n'importe quel rite islamique. Il dit « Salam alaykoum ». Il est l'Iqa, donc au revoir. C'est prescrit dans les choses et le prophète l'a fait, on l'a imposé à lui. Ça fait partie des rétributions de l'accomplissement de ces rites-là de Hajj. Faire au revoir, dans tout rituel islamique, il y a aussi au revoir, ça fait partie des conditions, des préalables pour toute œuvre islamique.
En prélude aux élections législatives partielles de la 9e région du Niger ou diaspora et dans le souci de parfaire ses préparatifs, la Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé ce 7 juin à Niamey une formation à l'intention des commissaires des élections. Ceci afin de mieux cerner les enjeux de ces élections qui auront lieu le 18 juin dans 15 pays dont 12 en Afrique, 2 en Europe et aux USA. Maître Isaac Sona, président de la CENI, revient sur les rôles des commissaires dans ce processus.
La présentation qui va être faite ce matin se fera sous forme d'éléments de mise à niveau. Il ne s'agit pas pour les missionnaires de se substituer aux commissions électorales, il s'agira d'apporter les éclairages nécessaires au bon fonctionnement des commissions, à la formation, j'insiste, à la formation des nouvelles personnes complétant les commissions électorales sur place, mais encore plus sérieusement, la question des agents des bureaux de vote. Ceux-là sont des personnes peut-être novices, d'où la nécessité pour la CENI de faire très très attention à leur formation, tant théorique que pratique. Il s'agira de rester vigilant pour qu'aucune erreur ne soit commise dans le déroulement que nous souhaitons pour eux de ces élections.
Des propos recueillis par Ali Nyoli Abdelmoumouni. Autre formation qui a débuté lundi dernier à Diffa à l'intention des responsables régionaux des partis politiques de la majorité, de l'opposition et des non-affiliés sous les principes de base de la démocratie et les techniques de communication. Cette formation est organisée par le Conseil national du dialogue politique à CNDP. Nahiru Oumarou, premier secrétaire permanent du CNDP, appelle les politiques à faire à chaque fois une communication responsable. Il est au micro de Mani Moussa.
Le premier rôle du CNDP, en tout cas pour nous, représentants des partis politiques, c'est de convoquer une réunion à chaque fois qu'un problème surgit afin de discuter et débattre sur la problématique en question. Donc, la rancune n'a pas sa place dans cette sphère de politique, car l'objectif commun, c'est de gérer la gouvernance en tant que parti politique, et cela pour le bien-être du citoyen. C'est pour cela que chaque parti politique lutte pour avoir les commandes du pouvoir et exécuter son programme. Pour ce faire, il est bon que quand le politicien prend la parole, qu'il fasse très attention de ce qu'il avance. Il faut que les politiciens mesurent leurs propos de façon à ce que le citoyen ait la garantie de son bien-être. C'est cela que nous devons faire.
Je vous le disais dans les titres, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, HACP, a organisé du 1er au 2 juin à Wallam un forum sur la libération des champs de la dite commune. Il s'agit pour la HACP de renforcer la cohésion sociale entre les populations autochtones, les déplacés internes et réfugiés, mais surtout entre agriculteurs et éleveurs. Écoutons les propos du président de la HACP, le général Habou Terka, recueilli par Asmane Chena.
Il n'y a pas des éleveurs d'un côté et des agriculteurs de l'autre. Il y a des agro-pasteurs. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'organiser la cohabitation, pas entre les communautés, mais entre les deux activités. Ces deux activités nous profitent tous. Nous avons nos animaux chez les pasteurs et les pasteurs ont des champs qu'ils exploitent. Donc nous sommes obligés par rapport à ces questions d'avoir une nouvelle vision. Au demeurant, je sais que la région de Tillabéri a fini l'établissement de son schéma foncier. Et à l'intérieur de ces schémas ont été identifiés et délimités toutes les aires de pâturage, mais c'est quelquefois à l'intérieur des champs. Parce que, évidemment, la terre est en train de s'aménuiser avec le développement démographique de notre pays. Nous sommes obligés de leur faire un peu d'espace. Par ailleurs, l'insécurité qui sévit au Mali empêche nos éleveurs d'aller de l'autre côté. Après le forum, il faut vraiment un suivi de cette activité.
L'actualité toujours en région, lancement hier à Zinder du projet de construction d'un internat pilote des jeunes filles. Il sera construit dans l'ancien local du centre d'enseignement français. Ali Keita a recueilli les propos du gouverneur de la région de Zinder, Lawali Amadou Madougou, au lancement de ce projet pilote. On l'écoute.
Le premier internat qui accueillera à terme 80 collégiennes est créé à Zinder. L'inauguration est prévue à l'entrée d'octobre 2023. Une première promotion de 25 élèves issus du département de Miria et du quartier Karakara de Zinder sera accueilli à l'internat et sera scolarisé au collège CG4 en classe de 6e et 5e. Dès le mois d'août, ces élèves seront accueillis à l'internat grec dans l'attente de la fin des travaux. Elles bénéficieront de cours de rémédiation pour consolider leurs acquis. Les élèves bénéficieront d'un accompagnement pédagogique éducatif personnalisé, renforcé, offrant des conditions de travail optimales avec un accompagnement scolaire spécifique, aide aux devoirs, atelier de rémédiation, accompagnement personnalisé, professeur répétiteur.
Pendant ce temps, la population de la région de Diffa vit dans l'insécurité depuis 2015, l'année des premières attaques de Boko Haram. Depuis lors, il n'est pas rare d'entendre des bruits d'armes la nuit. Mais quelles sont les conséquences psychologiques de ces bruits chez les enfants? Moustapha Bagoudou Chekaro, communicateur à la direction départementale de la protection de l'enfant de Méné-Sorwa, explique au micro de Mamani Drissa.
Ces tirs peuvent amener l'enfant à avoir peur. Même si l'on tape sur les mains à côté de lui, il va avoir peur. L'enfant peut également avoir un problème au point où il ne peut pas rester dans un groupe de personnes. Partout où il va, il aura l'impression comme si l'on veut tirer sur lui. Il n'a pas le même sens que l'enfant qui n'a pas vécu dans cette situation d'urgence. L'enfant qui n'est pas dans ce milieu, quand il entend ce type de bruit, il va se dire que c'est l'éclatement d'un pneu. Cela peut engendrer des problèmes qui peuvent même lui empêcher d'avoir un bien-être. La vie, c'est un tout. Pour lui, ce serait le contraire. Ici, à Diffa, à Méné et à Goudoumaria, nous avons mené des activités sur les enfants qui se sont retrouvés dans cette situation. Cela leur a même empêché de continuer leur étude. Ils sont touchés à un degré inattendu.
En bref, une initiative développée par le ministère de la Santé du Niger et l'ONG Health and Development International a permis de réduire de 70% les décès maternels dus au saignement chez les femmes ayant accouché dans les services de santé au Niger. Cette initiative a permis d'être le premier pays à atteindre un taux supérieur à 50% de réduction de la mortalité maternelle liée à l'hémorragie postpartum, a annoncé Mme Biza William, ancienne ambassadeur des États-Unis au Niger. Le week-end dernier, aux environs de 22h, un incendie s'est déclaré dans le quartier Réseau à Arlita. D'importants dégâts ont été enregistrés avec plusieurs boutiques totalement calcinées par le feu. Cependant, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Le maire de la ville déplore le comportement de certains citoyens. Abdourahmane Maouli est au micro de Moutari Abdoulaye.
Il y a deux versions. La première, il est dit que c'est le transformateur qui a fait une masse. Et quand la masse est produite, il se trouvait qu'en dessous, il y a de l'essence. Et l'essence a pris feu. La deuxième version dit que c'est à partir de là où il y a l'essence que le feu s'est déclaré. Néanmoins, nous attendons la version officielle de l'enquête. C'est vrai, quand un incendie se déclare, il est bon d'avoir l'assistance de la population pour circonscrire le feu. Mais quand les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux, la population doit laisser les pompiers faire leur travail. Car il y a des gens qui, c'est pour aider à circonscrire le feu. Mais il y a d'autres également qui, c'est pour commettre des actes de forfaiture, du vol. Nous déplorons cet état de fait. Aussi, lorsqu'un incendie survient, il n'est pas interdit à la population d'apporter son secours. Mais il faut le faire avec une bonne intention. D'ailleurs, nous avons inscrit dans le budget communal l'achat d'un véhicule de sapeurs-pompiers par la voie légalement indiquée.
C'est ça, bon mot.
Du sport en bref, après avoir surclassé l'AS Police, deuxième du championnat national de football sur le score de 3-0 samedi dernier, dans le cadre des préparatifs de la CAN U23, les moins de 23 ans du MENA poursuivent leur préparation. Ce soir, à partir de 17h au stade général Sène-Kountchou de Niamey, ils affronteront la sélection régionale de Niamey. Pour rappel, la CAN U23, c'est du 24 juin au 8 juillet 2023 au Maroc et le Niger est logé dans le groupe B en compagnie de l'Égypte, du Cameroun et du Mali. Le magazine du journal, la situation sécuritaire de la région de Maradi ne connaît pas de répit. Les individus armés continuent les attaques des villages pour piller, emporter des animaux et kidnapper des personnes pour des demandes de rançon. Bien que les forces militaires de la zone arrivent à mettre la main sur certains, le gouverneur de Maradi, Aboubakar Cheibou, indique que la situation est compliquée. Il est au micro de Mohamed Maman.
Deux bandits armés, des jeunes de 16 et 20 ans, ont fait incursion dans un village d'Aklement à 3 km de Soudoulou. Ils ont tenté de voler des animaux. Ils se sont fait face aux forces de défense et de sécurité et aux populations du village de Takalmawa. Les deux bandits ont été arrêtés avec 3 AK-47 récupérés et tous les animaux ont été ramenés chez leurs propriétaires. C'est une situation que nous connaissons tous d'insécurité au bord de notre frontière.
Monsieur le gouverneur, vous avez été à la présentation de ces deux bandits armés. Comment était votre réaction quand vous avez vu que c'est vraiment des enfants?
Si je n'étais pas témoin en voyant ces enfants, je pensais qu'on a en face de nous des innocents. Mais quand on regarde leurs actes, on a en face de nous des grands criminels. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question délicate et difficile.
Heureusement, on a eu aussi à arrêter des complices, des gens même du village.
Effectivement, il y a un habitant d'un campement qui a été arrêté. Et des complices ou pas, c'est la justice qui va déterminer. Parce qu'un des bandits, quand il a déchargé ses cartouches, il s'est réfugié auprès de ce vieux et il rentrait se camoufler sur son lit. Selon les on-dit, le monsieur a dit qu'il a téléphoné pour informer la population que le bandit est chez lui. Et selon certaines sources, c'est un véritable complice, mais la justice va déterminer. Mais je suppose que l'enquête suit son cours et c'est l'enquête qui va nous déterminer le degré de complicité de ce monsieur.
Monsieur le gouverneur, quelle est aujourd'hui la situation de l'insécurité?
Moi, je pense que ce qu'il faut reconnaître, nous avons une bande le long de notre frontière, dans un pays voisin qui est incontrôlé. Tous les bandits armés que vous voyez ne logent pas au Niger. Ils ne préparent pas leur complot au Niger. Ce qu'ils font de l'autre côté est extrêmement dangereux pour la vie de la population. La preuve, beaucoup de populations de cette zone ont migré sur le Niger parce qu'ils savent qu'au Niger, ils ont plus de sécurité. Nous allons mettre tous les efforts qu'il faut, c'est ça que nous sommes en train de faire.
Les réfugiés continuent à fuir vers le Niger.
Bon, il y a toujours quelques-uns qui arrivent, mais ils n'arrivent pas en grand nombre.
Ce journal est à présent terminé. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Tout de suite, le journal en langue tamashek avec Alain Nouachar.